je suis en retard, mais c'était des coups de téléphone successifs. Je pouvais pas partir comme c'était des choses importantes. Donc, la dernière fois, je vous avais montré un peu ce qu'il y a de tout à fait particulier dans la question de la philosophie du vivant. Ce qui n'est pas suffisamment explicité dans la philosophie d'Aristote. Je crois tout le développement de la psychologie au grand sens, cette attitude réflexive, permet de comprendre qu'il y a quelque chose de particulier dans cette saisie du vivant. Il y a une méthode spéciale qui est très difficile à préciser du reste. Parce que ça reste philosophique, ça reste objectif. Et cependant, ça implique cette attitude réflexive. Mais c'est toute la différence qui existe entre la science biologique et la philosophie du vivant. C'est que la philosophie du vivant essaie de saisir ce qu'il y a de tout à fait particulier dans le point de vue de l'opération vitale. Il faut être un spectateur privilégié de l'opération vitale. Et pour ça, il faut saisir de l'intérieur. Le vivant, c'est celui qui se meut. Si je saisis le vivant de l'extérieur, je ne saisis pas comme vivant. Comme disait quelqu'un malicieusement, la science biologique saisit le vivant mort. Il faut que le vivant soit mort pour que la science biologique puisse le saisir, ce qui est très vrai. Saisit que l'aspect matériel du vivant. Je ne peux jamais saisir le vivant comme vivant. Oui, je crois ça très important pour nous, parce que on est impressionné par le progrès si intense de la science biologique. Pas nier que ce siècle a fait que la science biologique avait des progrès intenses. Mais la philosophie devrait tenir compte de tout ça. Oui, du côté causalité matérielle. Donc, du côté disposition. Aucun principe nouveau. Les lois biologiques sont des lois scientifiques qui reposent sur la mensuration. Je saisis le côté matériel du vivant. Se demander dans quelle mesure cette fameuse parole d'Aristote reste vraie. L'âme est la quiddité du corps vivant, de l'homme. Et donc, si je ne saisis pas l'âme, je ne saisis pas la quiddité du corps humain. Je me souviens, violente, je vous ai déjà parlé, cette étudiante de biologie espagnole, donc il réagissait bien entendant ça. Docteur en biologie a dit, alors toute ma connaissance biologique qui s'est faite sans regarder l'âme n'est que matérielle. Je lui dis oui. Dit alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est intéressant s'il y a la philosophie. S'il n'y a pas la philosophie, vous risquez de faire des erreurs énormes. Mais c'est très important, c'est pas commode à voir. Il faut vraiment saisir la philosophie du vivant. philosophie du vivant pour comprendre cela. Et c'est capital dans le monde d'aujourd'hui. Oui, la science, les sciences physiques et biologiques et les sciences psychologiques ne saisissent que les dispositions et les dispositions ex parte matérielles, ce qui est divisible. Et c'est pour ça que les sciences poussent toujours ou conduisent toujours s'impose à un positivisme qui est fondamentalement matériel. Donc le matérialisme. C'est pour ça que Lénine pouvait dire, faut pas l'oublier, de ces paroles de Lénine qu'il faut jamais oublier. Le marxisme doit évoluer en fonction du progrès des sciences. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une alliance secrète entre le positivisme et le marxisme. Et cette alliance continue. Je crois que c'est très très important de comprendre ces choses-là. C'est pour être lucide au climat dans lequel on est et de voir où ça mène. La science biologique ne dit rien de l'âme. Quel est le principe propre de la philosophie du vivant? C'est la découverte de l'âme. Puisque la philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. Ce n'est pas la philosophie de l'araignée. Si intéressante que soit l'araignée au point de vue irascible. L'araignée est un animal qui est une irascibilité extraordinaire. J'ai un spécialiste de la psychologie des araignées. Il avait tous les livres qui paraissaient sur les araignées et sur la sexualité des araignées spécialement. De sorte que je me suis dit, voyez, le seul choix d'Étiole s'effondre. Il peut s'effondrer, puisqu'il était construit sur les alluvions de la Seine. Il s'effondre. Tout disparaît. On découvre une seule cellule, la cellule de ce père. On découvre, selon une loi très particulière, cette bibliothèque. On voit tous les livres sur la sexualité d'araignée. On dit, il y avait un couvent qui était construit pour étudier la sexualité d'araignée. C'est comme ça qu'on construit l'histoire, oui. Ça peut très bien se faire, ça. Quand on voit comment on a essayé de comprendre Qumran. Mais il y a un élément. Et comme c'est le seul, il explique tout. C'est très intéressant de voir ça. La philosophie du vivant, c'est la philosophie de l'homme vivant. C'est pas une anthropologie, c'est une philosophie du vivant. Et c'est légitime, puisque l'homme est le vivant le plus parfait que je peux connaître. Et c'est le seul vivant que je peux connaître comme vivant. Puisque les réactions du chien qui pleure quand son maître est absent, en fait, une herméneutique en fonction de ce que vous vivez, vous, comme homme, et vous transposez sur le chien. passage joue un rôle très particulier auprès des ermites. Alors vous comprenez, vous devez essayer de comprendre pourquoi. C'est quand même intéressant de voir ça. La psychologie de la vache, c'est très difficile à savoir. Vous la voyez en fonction de l'homme. Et n'importe quel animal, c'est comme ça. L'irascibilité de l'araignée, vous le voyez en fonction de l'homme. L'araignée qui tend sa toile d'araignée et qui est là, au bout, et qui attend que la mouche arrive. On a tous vu ça. Puis elle se précipite dessus. Puis elle saisit tout le sang. Elle le laisse. Oui, c'est l'irascibilité. Alors vous comprenez très bien à partir de là qu'est-ce que c'est que cet animal qui est une irascibilité si forte. Oui, c'est métaphorique. C'est une analogie, mais métaphorique. Par mode. Est-ce que c'est par mode de similitude? C'est métaphorique. Vous projetez sur le monde des animaux votre philosophie du vivant. Au plan philosophique, il n'y a qu'une seule philosophie du vivant, celle de l'homme. C'est la seule, du reste, qui intéresse le philosophe. Alors, le philosophe doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce vivant que je suis ? Je suis un vivant. Vivant. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce vivant? Pour cela, je regarde toutes mes diverses opérations dans leur très grande diversité. Je peux les décrire, je peux essayer de saisir ce qui caractérise chacune de ces opérations. Depuis le sommeil, je décris le sommeil. J'ai conscience du moment où je perds conscience et où je me remets au rythme de l'univers. C'est pour ça que les enfants n'aiment pas dormir. Parce qu'ils partent au-delà, dans un monde inconnu. Alors il y a les rêves, il y a les cauchemars. Ça fait partie des opérations du vivant, ça. Qu'est-ce que ça représente? Il n'y a pas beaucoup de traités sur les rêves. Aristote en a fait un. Freud aussi. Mais entre deux, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est très intéressant à faire, d'Aristote à Freud. Et de voir l'interprétation qu'Aristote donne des rêves et l'interprétation que donne Freud. Sur l'imagination, vous savez. Il y a Aristote, le premier. Parce que Platon n'a pas donné de traité sur les rêves. Ça ne l'intéressait pas. Tandis qu'Aristote, ça l'intéresse. Ça, c'est le réalisme d'Aristote. J'essaie de comprendre toutes mes opérations vitales. Et c'est toujours moi. Donc, il y a une unité radicale à travers toutes ces opérations vitales. Et il y a cette très grande diversité. C'est cette unité dans la diversité qui m'oblige de poser un principe propre de vie. Le corps explique la diversité. Est-ce que c'est le cœur qui est spirituel, d'un amour d'amitié. Puisque toute la philosophie pratique est antérieure à la philosophie spéculative. Et donc, je peux me servir de tout cela. Et si je veux comprendre cette unité dans cette diversité, je dis qu'il y a un principe radical qui fait l'unité substantielle de l'homme comme vivant, de moi comme vivant. Et ce principe, cette source d'unité, je l'appelle âme. Ce n'est pas les philosophes qui l'ont inventé. Le mot âme provient des traditions religieuses, comme le mot Dieu. Il faut être très honnête, hein, au point de vue philosophique. Il y a des mots qui sont nés en climat religieux, parce que le climat religieux est antérieur au climat philosophique. Les pythagoriciens, immédiate par l'intériorité. L'intériorité est une expérience. Ah, sans doute. Et cette intériorité me met en présence d'une source d'unité. Mais cela ne suffit pas, parce que cette intériorité me met uniquement en présence d'une source cachée. Je ne sais pas exactement ce qu'est cette source, ce qu'elle est. Donc, il faut prendre le procédé inductif qui me fait découvrir cette source. Et je qualifie cette source d'âme. Voyez, les traditions religieuses découvrent l'âme comme un principe d'intériorité. Le philosophe s'empare de cette expérience d'intériorité pour découvrir cette source cachée, existante, d'intériorité. Et à partir de là, il se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Il découvre donc la nécessité absolue de poser un principe immanent, un principe déterminant de mes opérations vitales. Et je constate que dans la vie végétative, ce n'est pas l'aliment qui détermine, il conditionne. Et que dans la vie sensible, c'est la réalité que je vois qui détermine. Je vois tout de suite la très grande différence qui existe entre les opérations de vie végétative et les opérations de vie, de connaissance sensible. L'ordre est inversé. Très curieux que dans la vie végétative, les principes de vie végétative sont transcendants. Kant est vrai pour la vie végétative. La subjectivité transcendantale. Vous voyez, vous faites l'expérience tous les jours. Quand vous digérez et que vous assimilez, votre assimilation du pain ou du riz est la même. Au terme, c'est vous. C'est votre sang, c'est votre chair, c'est vos os. Ce n'est pas un petit parti de riz, un petit parti de pain. Ce qui distinguerait l'Europe de l'Asie. Non. La nourriture est différente et l'homme est le même. Et c'est très impressionnant, ça. De voir que la vie, les opérations vitales de vie végétative, il y a une source transcendantale de vie qui ramène tout au vivant. J'assimile l'aliment en vue du vivant. C'est bien, vous voyez, une subjectivité transcendantale. Vous voyez, quand on est en face d'une erreur, de voir ce qu'il y a de vrai dans cette erreur. Où est-elle vraie ? Elle est vraie pour la vie végétative. Elle n'est pas vraie pour la vie sensible. Elle est encore moins vraie pour la vie intellectuelle. Donc, je constate cette source de vie. Très très diverses, et c'est pour ça que je dirais source radicale de vie. L'âme est un principe, une source de vie, mais immédiatement après avoir saisi l'âme comme principe unique, substantiel et radical de vie, je distingue tout de suite trois niveaux de vie qui sont très, très traditionnels depuis les pythagoriciens. La vie végétative, la vie animale, sensible, la vie spirituelle. Il y a trois niveaux de vie. Et ces trois niveaux de vie sont pris à partir de l'analyse que je fais des différents types d'opérations vitales. La vie végétative, la vie sensible, la vie intellectuelle. Ça, c'est important de saisir ça. Saisir que il y a un principe radical et divers niveaux. Alors, c'est le problème qui s'est posé au cours des âges. Y a-t-il trois âmes? Une âme végétative, une âme animale et une âme spirituelle. Et certains philosophes ont soutenu ça. Parce que, en effet, l'expérience me montre bien qu'il y a trois niveaux de vie. S'il y a trois niveaux de vie, il y a donc trois âmes. Alors il faut montrer que c'est faux de dire qu'il y a trois âmes. Pourquoi? Parce que justement, l'expérience première, c'est que c'est toujours le même vivant. Moi, c'est toujours le même vivant qui mange, qui sent les choses. C'est pas trois vivants distincts. Et ces trois vivants, je veux dire, ces trois niveaux de vie